Radio Octopus. Écho des développements.
Bienvenue dans Écho du développement, votre magazine de promotion des questions de l'environnement et des développements durables diffusé sur Radio Capi qui s'intéresse aujourd'hui à la problématique de l'exploitation pétrolière en RDC. Ce magazine vous est présenté par Tati Mapoukou sous la supervision et la coordination de Jean-Marc Matouaki et Diedoné Nyangasa assure la prise des sons. Toute l'équipe vous souhaite une très bonne condition d'écoute de ce numéro.
Radio Capi vous propose désormais ses magazines thématiques hebdomadaires du lundi au vendredi à 12h30 heure de Kinshasa. Retrouvez Maïcha Bora chaque lundi, droit et citoyenneté mardi, parité et famille mercredi, écho du développement jeudi, 100% jeunes vendredi à 12h30 heure de Kinshasa. Sachez également que les magazines étoiles vous est proposé désormais samedi à 19h05 et lundi à 15h30. Identité culturelle, samedi à 8h30 et dimanche à 11h05. Grande interview, samedi à 10h05 et dimanche à 9h05, heure de Kinshasa. Prenez également rendez-vous avec les magazines des Nations Unies tous les dimanches à 8h30 et 19h05, heure de Kinshasa. Radio Capi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Merci de rester branché à Radio Capi, la fréquence de la paix. En RDC, les acteurs de la société civile environnementale sont montés au créneau pour dénoncer l'appel d'offres publié au mois de janvier dernier visant l'attribution des 19 blocs pétroliers aux firmes qui vont exploiter ces ressources naturelles afin d'assurer le développement du secteur des hydrocarbures et des communautés locales selon les spécialistes du ministère des tutelles. Quelles sont les potentialités de la RDC en termes de pétrole et gaz? Est-ce que l'exploitation de ces ressources peut assurer le développement socio-économique de la RDC? Est-ce que c'est possible de concilier les principes de protection de l'environnement et de l'exploitation pétrolière? Des réponses à toutes ces questions, vous les aurez sans doute au cours de ces numéros des Codes du développement qui démarrent avec les points de vue des quelques Congolais sur ces projets visant l'attribution des 19 blocs pétroliers à des firmes devant assurer l'exploitation de ces ressources.
Bon, je ne soutiens pas vraiment cette exploitation puisque nos espèces et notre biodiversité sera vraiment menacée. Alors, nous ne pouvons pas sacrifier notre génération future pour les intérêts du présent. La conférence est intéressante puisque ça nous a ouvert les esprits. Ce sont beaucoup plus des histoires que les gens ne maîtrisent pas. Alors, les gens qui décident, peut-être ne connaissent pas pourquoi ils décident. Ils doivent participer dans de pareilles formations pour connaître ce que l'exploitation là pouvait amener dans la nature.
C'est bon, puisque des fois, nous avons des confusions. On parle toujours d'exploitation de pétrole dans des sites déjà qui sont un peu sensibles, soit des parcs qui sont déjà au niveau international. Or, nous avons encore d'autres réserves qu'on peut exploiter le pétrole. Nous, ces jeunes, on doit exploiter le pétrole là où, dans des sites qui ne sont pas concernés par l'organisation internationale, ça sera mieux. Au lieu de se focaliser dans les parcs Salongo Virunga, il y a encore des sites qui ne sont pas construits, qui ne sont pas des parcs. On peut exploiter le pétrole là-bas et conserver la nature et la biodiversité.
Ce sont des projets qu'il faut réaliser, mais nous devons tenir compte des études d'impact environnemental. Ce sont ces études-là qui doivent être capables de dire que oui, là, le projet peut passer. Si le projet ne passe pas, l'étude va décider que le projet ne passe pas. Mais je souhaiterais que dans cette étude-là, ils doivent prendre du temps pour les audiences publiques, la consultation publique des populations locales. Mwanda, c'est une expérience vivante. De tout ce que les gens publient à partir de là, quand nous lisons ça, ça ne nous intéresse pas.
Vous venez là de suivre les avis de quelques Congolais sur ces projets visant l'exploitation pétrolière en RDC. Quel est le point de vue de l'ONG Greenpeace sur ces projets d'appel d'offres visant l'attribution des 19 blocs pétroliers dont 9 se trouvent dans les forêts du bassin du Congo? Patient Mwamba, sont chargés des campagnes Forêt réagit.
C'est depuis le 28 janvier de cette année que nous avons appris à travers la radio Okapi que le ministre des Hydrocarbures a identifié des blocs pétroliers dont une partie importante se trouve dans la cuvette centrale. Il y a 19 blocs au total, mais la cuvette centrale est couverte par 9 blocs pétroliers, ce qui est notre inquiétude et la raison pour laquelle nous avions dénoncé ce projet.
Mais qu'est-ce qui justifie votre inquiétude, M. Patient Mamba?
Oui, l'inquiétude, c'est par rapport à ce projet qui compte augmenter l'exploitation du pétrole dans un site ou dans un espace où nous trouvons une importante tourbière. Et comme vous le savez, la tourbière joue un rôle important dans la séquestration du carbone. Et vous savez aussi que le réchauffement climatique est dû à des émissions importantes du carbone. Donc, pour nous, nous disons que les activités pétrolières dans le bassin du Congo auront un impact sur les tourbières, vont détruire les tourbières, et cela va occasionner la libération d'une importante quantité de gaz à effet de serre, ce qui sera vraiment comme une bombe climatique. Et donc nous ne voulons pas assister, en dehors de catastrophes que nous vivons maintenant, assister à des catastrophes encore plus grandes que ce que nous vivons à ce jour. Donc pour ce, nous sommes contre et nous dénonçons cette façon de faire les choses. Pour votre information, vous savez que la cuvette du bassin du Congo est couverte à 75% de blocs pétroliers. Mmh. Et quand je parle de la cuvette du bassin du Congo, je ne vois pas seulement la RDC, je vois aussi la République d'en face du Congo, qui a aussi identifié des blocs, qui est passé même à l'appel d'offres depuis 2018. Et donc pour nous, nous disons que le comportement de ces deux pays ou de ces deux gouvernements ne vont pas dans le sens des engagements qu'ils ont pris, par exemple pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Faisons cette fois-ci un focus sur ce qu'on entend par les concepts produits pétroliers. Ce sont des dérivés utilisables du pétrole brut issu de son raffinage selon nos sources. Le pétrole est en soi une matière première qui est ensuite transformée en fonction de la demande sur les marchés, précise M. Nixon Nzinga, président du conseil d'administration de l'Institut du pétrole et gaz.
Donc les produits pétroliers, ce sont des produits dérivés du pétrole. Donc le pétrole comme une matière première. Après, ce pétrole-là, il est transformé et il donne maintenant les produits pétroliers tels que essence, gazoil, pétrole lampant, kérosène. C'est ce que nous utilisons.
Et ces produits pétroliers rendent quel service à la communauté?
Alors, c'est d'abord l'énergie. Il y a des produits énergétiques, les carburants. Après, nous avons aussi des produits pharmaceutiques qui viennent du pétrole, les produits cosmétiques, nous avons les produits de la pétrochimie, les plastiques, tout ça ce sont des dérivés de produits pétroliers.
Et aujourd'hui, à l'échelle mondiale, quelles sont les nations qui sont considérées comme des grands producteurs de produits pétroliers?
Alors, les grands producteurs, les États-Unis, il est en tête, il y a l'URSS, il y a l'Arabie Saoudite, ce sont des grands producteurs du pétrole. Ils sont organisés en OPEP, Organisation des pays producteurs du pétrole, et les non-OPEP. Voilà.
Et pourquoi est-ce qu'on qualifie les pétroles de l'or noir? Est-ce qu'on peut avoir une idée de cette qualification, du pourquoi de cette qualification?
C'est historique. Et au départ, aux États-Unis, ça vient des États-Unis en fait. Au départ, il y a eu l'or jaune. Donc il y a eu les migrations, la ruée, on connaît l'histoire, la ruée vers l'or. C'est des mines d'or. Après, en 1859, maintenant, il y a eu l'arrivée vers l'or noir. Parce qu'il y a d'abord, donc il y a le pétrole. Edwin Drake va découvrir son premier puits. On est en 1859, au mois de juillet. Et maintenant, on est passé de l'or jaune à l'or noir, parce que le pétrole est de couleur noire.
Et ça rapporte aussi gros aux nations qui produisent cette ressource.
Oui. On va voir les pays, le produit intérieur brut des pays comme l'Arabie Saoudite, tous ces grands producteurs du pétrole. On sait comment est-ce que le pétrole change une nation, hein, même ici en Afrique, hein, les pays comme on voit les Ghana,
la Libye,
hein, des pays qui autrefois étaient pauvres, Guinée équatoriale, hein, les Équato-Guinéens étaient pleins au Gabon, hein, dès qu'on a trouvé du pétrole, ils sont plus là, ils sont rentrés chez eux. Hein.
L'écologiste Corneille Ewango, enseignant à la faculté des sciences de l'université de Kisangani, accueille avec amertume ces projets d'appel d'offres visant l'exploitation et l'exploration pétrolière en RDC, car certains blocs pétroliers retenus se retrouvent dans les forêts du bassin du Congo.
Effectivement, la RDC a le droit d'évaluer ses richesses géologiques, mais il doit tenir compte aussi de certaines zones stratégiques. Et il y a par exemple les aires protégées et certains sites forestiers et aussi pour les cas qui me concernent, les tourbières. Donc ce sont des zones parfois très stratégiques qui vont, dont l'intérêt va au-delà de la ressource qu'on peut exploiter. Je pense qu'il va de l'intérêt de la RDC de tenir compte aussi de la vie de ces populations. Beaucoup de ces zones sont dans des zones dont la vie de nos populations en dépend. Et je crois que, si je ne me trompe pas, ça sera aussi de la vie de tout le monde. La plupart de ces exploitations industrielles rendent encore plus pauvres ces populations qui sont assez déjà pauvres.
Professeur Corneille, mais en même temps aussi, les spécialistes en hydrocarbures disent que l'exploitation pétrolière n'aura pas d'incidence sur l'environnement parce que il y aura en amont des études d'impact environnemental qui seront initiées.
Qu'est-ce qu'on attend par impact et études d'impact environnemental? Et comment on va atténuer ces impacts? Je ne veux pas citer ici des cas ou des noms de sociétés ou de compagnies. Mais nous le vivons, nous les Congolais, nous ne devons pas avoir de mémoire courte. Nous avons certaines de nos populations dans certaines régions qui sont en train de mourir avec des exploitations de certains minerais, dont le pétrole. Les populations sont en train de mourir parfois de maladies. Est-ce qu'on me dira que dans ces zones, on n'a pas fait des types d'impact environnemental? Mais est-ce qu'on en a remédié? On fait des études d'impact environnemental dans les exploitations forestières. Est-ce qu'on a remédié à la régénération de nos forêts? Je pense que non. Les études d'impact sont pour évaluer les dégâts qui peuvent être causés. Mais on doit les atténuer. On doit restaurer l'écosystème. Est-ce qu'on l'a restauré dans ce pays? Prenez le cas de l'ancienne, la plus vieille mine au Katanga, la Jikamine, le site d'exploitation de la Jikamine jusqu'à aujourd'hui. Que se passe-t-il? Est-ce que les populations de Katanga sont plus riches à cause de l'exploitation de ces gisements de cuivre, de cobalt et ainsi de suite? Et comment est l'environnement là-bas? Est-ce qu'on n'a pas procédé depuis l'époque coloniale à des études d'impact environnemental? C'est la grande question que le gouvernement doit d'abord répondre avant de penser, explorer et exploiter aussi les autres ressources qu'il y a.
Il faut matérialiser ces projets d'attribution des blocs pétroliers, soutient Nixon Nzinga. Nous rappelons qu'il est le président du conseil d'administration de l'Institut du pétrole et gaz. Selon ses spécialistes en pétrole et gaz, il est temps que la RDC tire profit de ses ressources en hydrocarbures.
Il s'agit d'un appel d'offres et moi je suis d'avis que cela soit lancé. Nous avons d'ailleurs manqué plusieurs occasions dans ces pays où les gens sont venus pour exploiter et l'État, les dirigeants à l'époque ont tergiversé. Mais c'est une bonne occasion pour développer Bukungu, Ikela, Mbandaka, Makanza. C'est une bonne occasion si l'on doit faire des appels d'offres pour la cuvette centrale. On va développer le peuple, les populations qui se trouvent dans toutes ces contrées par cette activité. Je vous donne des exemples de zones sensibles. Hein. Je donne l'exemple de la forêt des Maracaibo au Venezuela. Ils exploitent le pétrole à Maracaibo, mais il s'agit d'une zone sensible. À l'époque, le président Chavez, à Diñet, à tout ce qui voulait dire écosystème, UNESCO, des trucs protégés. On dit non, qu'est-ce que ça nous rapporte? Et le Venezuela aujourd'hui exploite dans les Maracaibo, qui était une zone sensible. Si on doit exploiter dans une zone sensible, je vous dis, et l'État et la société, ils vont se mettre ensemble pour développer une politique de protection de l'environnement.
Radio Okapi vous propose ses programmes en mode télétravail suite à l'état d'urgence sanitaire en cours. Retrouvez toutes nos émissions interactives au Okapi Service du lundi au vendredi de 10h à 12h en rediffusion de 20h à 22h heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs du lundi au vendredi de 13h à 14h en rediffusion de 22h à 23h heure de Kinshasa. Dialogue entre Congolais du lundi au vendredi de 19h15 jusqu'à 20h en rediffusion le lendemain matin de 4h45 jusqu'à 5h30 heure de Kinshasa. Radio Okapi vous présente toutes ses excuses pour toutes sortes de désagréments et perturbations constatées durant notre antenne. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Bienvenue à ceux qui viennent de nous prendre en cours de diffusion. Vous écoutez en ce moment Écho du Développement, votre magazine de promotion des questions de l'environnement et des développements durables sur Radio Okapi qui s'intéresse au projet de l'exploitation pétrolière en RDC. Dans quelle zone géographique se trouve le gisement pétrolier de la RDC? Monsieur Nixon Ndinga, président du conseil d'administration de l'Institut du pétrole et gaz, nous donne des précisions.
Nous avons trois grands bassins. Je ne prends pas des sous-bassins, je prends des bassins. Donc, les bassins côtiers, la côte littorale, c'est ce qui produit, là où il y a Perenco. Et nous avons la cuvette centrale. Les bassins côtiers, on prend, disons, 30 km de Boma jusqu'à la côte. Et puis, il y a aussi la mer, mais nous avons un conflit avec l'Angola sur nos frontières, ça c'est un autre sujet. Donc il y a les bassins côtiers et puis il y a la cuvette centrale qui prend une partie de Kinshasa, tous les plateaux de Bateke, la province de Bandundu, le Grand Bandundu, l'Équateur, les deux Kassai, une partie de la province orientale. Tout ça, ça forme la cuvette centrale. Donc pour donner en termes de superficie, donc nous avons les bassins côtiers pour 6000 km², la cuvette centrale 800 000 km², et après notre troisième bassin c'est tous les grabins de l'Est là, tu commences de la province orientale jusqu'au Katanga. Les grabens, c'est 80 000 km². Donc voilà les trois bassins, d'une manière générale, sans compter les sous-bassins, où il y a des potentiels pour produire le pétrole en RDC.
Il faut souligner que l'exploitation du pétrole dans la cuvette centrale risque de compromettre les efforts consentis par la communauté internationale dans le cadre de la protection de la biodiversité, en croire l'écologiste Corneille Ewango. Nous rappelons qu'il est enseignant à la faculté des sciences de l'université de Kisangani.
Je crois que nous devons bien raisonner. Cela compromettrait un peu les efforts des efforts internationaux de protection de certaines de ces zones ou d'exploitation durable et de développement durable. Je ne pense pas que les mesures qu'on va prendre vont réellement contribuer à l'atténuation des misères de nos populations et que les ressources qui sont exploitées, à qui profitent ces ressources? Est-ce qu'ils profitent au peuple congolais? Est-ce qu'ils profitent à la pauvre population dans le milieu où on extrait les ressources? Je ne pense pas que ça soit vraiment efficace. Le Congo souscrit à certaines conventions internationales, mais qui sont les exploitants? Ce sont les multinationales. Donc, quand ils viennent exploiter, est-ce qu'ils considèrent ces réglementations, ces conventions internationales, entre autres, de la biodiversité, de lutte contre la pollution, de la restauration des écosystèmes dégradés par les exploitations et ainsi de suite, et la vie des populations? Quel est cet industriel qui a tenu compte des cahiers de charges qu'il signe avec les communautés pour réduire les écarts de pauvreté de notre population et contribuer au développement durable. Donc ces ressources, le pétrole qu'on veut exploiter, le peuple congolais, comme il vit dans la misère, dans son propre eau, qu'il manque, n'aura pas aussi de moyens à acheter ce pétrole-là. Mais il va le rendre encore plus pauvre. Donc nous devons, tout en ayant le droit d'évaluer et de vendre et d'exploiter nos ressources, mais ils doivent contribuer d'abord aux vrais propriétaires. Les vrais propriétaires ici, c'est les Congolais.
Oui, professeur, selon certains spécialistes en hydrocarbures, ils disent que c'est une exploitation minime. Les barils pompés sur la côte au niveau de Moanda, cela ne peut pas booster le développement. Par contre, en Angola, comme ils exploitent des grandes quantités, voilà pourquoi cela est facteur du développement.
Mais pourquoi on continue à l'exploiter? Alors, parce que c'est minime, on doit sacrifier cette population à mourir. Mais pourquoi ne pas laisser cette ressource intacte et ne pas polluer leur environnement afin qu'ils vivent? Je crois que c'est un faux problème. Personne ne peut venir investir pour exploiter quelque chose s'il ne peut pas tirer de bénéfices.
Le géographe Serge Pangou, enseignant à la faculté des sciences de l'université de Kinshasa, affirme pour sa part que l'exploitation pétrolière aura sans conteste des incidences sur la biodiversité et sur les vécus quotidiens des communautés locales.
Quand on parle d'exploitation pétrolière dans un parc, dans le sens général, on pense surtout à la biodiversité, mais aussi aux effets que cela peut avoir sur les populations riveraines et à la longue sur les animaux qu'on protège ou les espèces végétales qu'on protège dans le parc.
Et dans ça, nous rappelons que le parc de Virunga et de la Salonga, ce sont des parcs qui font partie des patrimoines mondiaux classés dans l'UNESCO.
Voilà, très bien. Et pour justement leur diversité biologique, n'est-ce pas? Mais laissez-moi vous dire que ces parcs sont, d'un autre côté, des parcs hydrologiques aussi, parce qu'il y a plusieurs eaux dans ces parcs. Par exemple, si nous parlons de la Salonga, avant que je n'aborde le Virunga, quand nous sommes dans Salonga, nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle une question aujourd'hui à la une.
Les questions d'actualité.
Une question d'actualité qui sont les tourbières. Mais les tourbières, moi je me suis intéressé un peu aux écoulements dans les tourbières. Cet écoulement est quasi stagnant, n'est-ce pas? Et donc, mon intervention a consisté à avertir que si d'aventure on venait à exploiter ou à chercher à exploiter le pétrole, il faudra d'abord, un, sécuriser ces tourbières, ce qui n'est pas évident. Pourquoi? Parce que qui dit pétrole, donc dans un gisement de pétrole, de ce que moi je sais, il y a toujours le pétrole lui-même, il y a l'eau et le gaz ensemble. Mais ces eaux-là, qu'on appelle les eaux d'exor, on va les extraire pour... C'est une phase qu'on doit éliminer parce que le pétrole, quand il est mélangé à l'eau, il n'est pas utilisable. Alors, en faisant cette séparation, il s'est créé un problème d'évacuation de ces eaux-là. Or, dans Salonga, il y a ces tourbières qui feront que ces eaux d'exor vont finalement se retrouver dans la plus grande partie dans les tourbières où l'écoulement, je vous ai dit, est très difficile déjà. Et donc, ce sont des terrains très mal drainés. Or, ces tourbières, on l'a déjà prouvé, sont des réservoirs de biodiversité. Alors, vous voyez, lorsque on va éliminer les eaux, je ne parle pas encore de pétrole, mais qui sera déjà polluée par les huiles, qui seront rejetées dans les tourbières, elles risquent d'y séjourner pendant très longtemps. ce qui, à coup sûr, va affecter l'écosystème aquatique de ces tourbières.
Il serait mieux que le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, annule cet appel d'offres visant l'exploitation pétrolière en RDC publié récemment par le ministère des Hydrocarbures, suggère Patient Mwamba. Nous rappelons qu'il est le chargé des campagnes forêts à Greenpeace.
Et nous nous adressons d'abord au président de la République. Nous lui demandons de pouvoir annuler toutes les décisions prises précédemment par son prédécesseur sur certaines concessions, certains blocs pétroliers dans la Salonga. Et nous ne voulons pas que le président de la République soit responsable de ce qui va se passer dans ces sites, et nous lui demandons de prendre de mesures pour annuler le concession et pour mettre fin à ce projet initié par le ministre des Hydrocarbures, et à ce projet d'appel d'offres ou de vente aux enchères de concessions ou de blocs pétroliers. Donc le président devra mettre fin à ce projet et aussi éviter d'être celui par lequel le malheur climatique va arriver, et surtout de respecter à tous ses engagements pris depuis qu'il est là pour la protection du climat. Et nous voulons qu'il ne soit pas seulement dans le parole, mais qu'il arrive au moins à mettre ce parole en pratique en suspendant toutes les activités industrielles qui détruisent l'environnement et qui perturbent les climats.
La RDC a le droit d'exploiter ses ressources naturelles tout en tenant compte des zones stratégiques comme par exemple les forêts du bassin du Congo qui méritent une protection intégrale, car les ressources naturelles exploitées précédemment telles que les minerais et les bois n'ont jamais réussi à booster le développement de la nation congolaise, conclut l'écologiste Corneille Ewango.
On devrait passer, quant à moi, par un aménagement. Et c'est ce que nous avons toujours appelé quand on parle des tourbières. Mmh. Oui, tout le monde veut qu'on ait un paiement des services environnementaux pour ces tourbières. Mais comment? Donc, on doit procéder à un aménagement de l'espace. Est-ce qu'il faut mettre tout le Congo comme un Éden mondial? Je ne pense pas. Nous devons aussi nous vivre. Mais nous ne devons pas aussi exploiter de manière anarchique. Donc, nous devons procéder par un aménagement territorial et voir quelles sont les zones qui peuvent être exploitées avec le moindre dégât et quelles sont les zones que j'appelle ici stratégiques sur le plan écologique, sur le plan humanitaire, qui doivent être sauvegardées pour l'avenir aussi bien de l'humanité et surtout du peuple congolais lui-même.
Oui, professeur, mais en même temps aussi, pour que cette population ait des bonnes écoles, ait de l'eau potable, l'électricité, des routes bitumées, il faut des ressources financières. Et les experts en hydrocarbures disent que ce secteur peut mobiliser des ressources à même d'amener tous ces ouvrages, ces services sociaux de base dans les fins fonds du Congo.
Je l'ai dit toujours plusieurs fois dans mes interventions. Qu'avons-nous fait des autres ressources que nous avons exploitées depuis là? On dit que le Congo, c'est un scandale géologique. Et c'est un scandale naturel, écologique. Prenons le cas des scandales géologiques. Combien de minéraux stratégiques que le Congo égorge, regorge et qui sont exploités?
Plusieurs.
Pourquoi ils ne contribuent pas à construire le Congo devenir un paradis de l'Afrique? Pourquoi? Et ça va contribuer seulement à la ressource du pétrole. Si le minéral, le cobalt, nous sommes peut-être troisième producteur, je ne sais pas, l'or n'en parlons pas, et les autres minéraux, les colombo-tantalites, toutes les téléphones que nous utilisons ici, peut-être la matière précieuse pour la fabrication de ces matériaux vient du Congo. Mais le Congo est où? Alors, c'est seulement avec l'exploitation gazière que nous allons développer le Congo.
C'est C'est par ici que nous clôturons le magazine Éco du développement de ces jours, magazine consacré à la problématique de l'exploitation pétrolière en RDC que vous a présenté Tati Mapoukou. Jean-Marc Matoua qui a coordonné et supervisé ces numéros et Dieudonné Nyangassa était à la prise des sons. Retrouvons-nous pour un nouveau numéro d'Éco du développement le jeudi prochain.